L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Je vais vous inviter maintenant à accueillir chaleureusement pasteur Jérémy Saudrille qui s'en vient pour apporter la parole de Dieu. On s'entraide, nous. Amen. Gloire à Dieu. Bien, combien d'entre vous, vous aimez pasteur Jérémy? Bon. Wow, il est béni, là? Gloire à Dieu. Il dit, il est surpris. Non. Amen. Gloire à Dieu. Je suis en vacances aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pasteur Jérémy qui va nous apporter la parole de Dieu. Je vais vous inviter maintenant à juste étendre vos mains. On va le bénir. Ouvrez vos cœurs également pour recevoir la parole que le Seigneur a déposée sur son cœur. Père éternel, on veut te remercier pour pasteur Jérémy qui est un don dans cette maison. Et Seigneur, nous prions maintenant que tu puisses souffler ton esprit sur lui. Merci Seigneur de remplir sa bouche avec tes paroles. Et merci aussi de disposer nos cœurs, qu'on puisse tous recevoir cette parole dans un bon terrain. On est pris au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Je vais mettre mon chronomètre pour ne pas vous faire endurer trop longtemps. J'aime me souvenir que Dieu a déjà utilisé un âne pour parler à quelqu'un. Donc je sais à nouveau que Dieu saura m'utiliser pour vous parler. Et je ne vous cacherai pas que ce matin, mon seul désir, c'est de vous amener à une repentance. Pour ceux qui en ont besoin. Et de vous convaincre par la parole de Dieu, par rapport à certaines priorités, mais ce message s'intitule « L'homme de la situation » et bien sûr, la femme de la situation. Vous savez, quand il n'y a pas les hommes qu'il faut, j'ai entendu dans une école biblique en France, Dieu utilise des femmes, et quand Dieu ne trouve aucune femme, il utilise des ânes. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est un peu fort l'écho. Et donc je vais vous parler du fait que le premier amour devrait nous amener à pratiquer les mêmes œuvres que Jésus. Ensuite, on va voir que Dieu cherche un homme différent de tous, mais un homme de la même nature que nous, avec des faiblesses. Je vais vous parler aussi de la fausse religion qui ne répond pas aux besoins des gens, des excuses qu'on peut trouver par rapport à l'annonce de l'Évangile, et des sentiments que nous devrions éprouver face au pays qui se perd. On va aller tout de suite dans Apocalypse, chapitre 2, on s'était arrêté là-dessus la semaine dernière, puisqu'en fait, ces dernières semaines, on a parlé de l'onction, on a parlé de la présence de Dieu, on a parlé de la prière, et dimanche dernier, nous avons parlé de ce premier amour. Et Jésus dit dans Apocalypse 2, au verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Effectivement, un chandelier qui ne sert à rien, on le jette à la poubelle ou on le vend. Et nous avons besoin de servir à la gloire de Dieu. La Bible dit ici que si tu ne pratiques plus tes premières œuvres, si tu n'es plus dans le premier amour quand Jésus t'a délivré, quand Jésus t'a sauvé, la seule porte par laquelle tu dois entrer, c'est la porte de la repentance. C'est-à-dire se repentir, tourner complètement de chemin par le chemin dans lequel nous sommes, on fait demi-tour complètement. On se dit effectivement, quand je suis né de nouveau, quand j'ai accepté Jésus et qu'il m'a puissamment délivré, je me souviens que j'étais en feu pour lui, je me souviens que je parlais de Jésus à tout le monde, je me souviens que je passais du temps à prier, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, je suis entré dans une religion. Et on sait tous que Jésus n'a jamais voulu une religion. La religion, comme dit un ami, est pourrie, ça sent pas bon. Ça sert à rien, si ce n'est d'éloigner les gens de Dieu. Mais nous vivons dans une relation vivante avec Dieu. Nous ne marchons plus avec nos propres œuvres, mais nous marchons grâce à la puissance de Dieu, à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc l'onction, on a vu ça ces dernières semaines, la prière, le premier amour, devrait nous amener à des œuvres. Si on est enseigné dans l'Église, si on est enseigné au travers de la parole de Dieu, ce n'est pas pour rester les mêmes personnes, ce n'est pas pour devenir des gros intellectuels, mais c'est pour mettre en pratique la parole. La Bible dit clairement, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, c'est un stupide, c'est un idiot, c'est un fou. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas être des fous, mais nous devons être des sages et savoir racheter le temps. 1 Jean 2,6 nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que quelqu'un demeure en lui? La Bible dit, si tu demeures en lui, tu dois marcher comme il a marché. Et la Bible nous dit de Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Si vous êtes réellement en Jésus, la Bible dit que vous devez marcher comme lui. C'est-à-dire que vous avez été oint du Saint-Esprit et que vous devez ensuite, et ça c'est votre responsabilité, aller de lieu en lieu faisant le bien. Votre objectif dans la vie suprême doit être de faire le bien autour de vous. Votre objectif suprême dans la vie doit être de délivrer des gens, de guérir des gens et de transformer la vie des gens qui vous entourent. Si vous n'êtes pas en train de faire ça, vous êtes complètement trompé de destinée. Vous pouvez avoir des appels différents, mais c'est notre destinée. À partir du moment où on a été délivré, ce n'est pas pour rester des obèses spirituelles et ne penser qu'à nous-mêmes et comment Dieu me bénit et comment Dieu peut me donner plus, mais c'est pour livrer sa vie pour les autres. Et malheureusement, beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens ont complètement déformé la parole de Dieu. Jésus a clairement dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Il y a un travail que nous devons faire et personne ne le fera pour vous. Vous devez le faire individuellement, je dois le faire individuellement, c'est celui de faire du bien autour de moi. Quelqu'un qui dit « j'aime mon frère » et qui le laisse crever de faim à côté de lui, il ne fait pas le bien. Il n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Oui, nous avons été sauvés, nous sommes devenus des chrétiens, des croyants, mais de là à devenir un disciple de Jésus-Christ, ça vous demandera d'aller et de faire le bien. Vous devez faire le bien autour de vous, ça doit être votre priorité. Votre priorité ne doit pas être « je veux me marier, je veux une nouvelle voiture, je veux un travail », mais votre priorité doit être le salut des perdus. Une église qui n'a pas comme priorité le salut des perdus, un chrétien qui n'a pas comme priorité le salut des perdus, c'est un chrétien fou, stupide, dit la Bible. Relisez les proverbes et vous le verrez, vous-même. Donc nous devons nous restituer par rapport à ce que Jésus nous a demandé. La Bible dit dans 1 Timothée 2, et d'ailleurs Jésus dira... À un moment, on est venu le voir et on a dit, regarde, il y a ta mère, il y a tes frères qui te cherchent. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Non, non. Ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux qui pratiquent la parole. Si nous sommes réellement des frères de Jésus, nous devons être des gens qui pratiquent la parole. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 9, 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et vous savez, la moisson est énorme. Il y a des gens partout qui attendent juste d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais Jésus a dit clairement, il ne s'est pas caché la face, vous savez, comme les autruches qui se cachent dans le sable pour ne rien voir autour d'eux. Il a dit, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Jésus savait que la moisson était très grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. C'est-à-dire peu de personnes qui étaient capables de travailler durement. Il y a des gens parmi vous, vous avez travaillé durement, et comme on dit en québécois, vous en avez arraché. Vous avez eu du mal, vous avez travaillé très durement dans votre vie pour pouvoir donner à manger à vos enfants, pour pouvoir vivre. Mais Dieu nous demande non pas de vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui et pour ses priorités. Vous devez travailler et travailler dans le naturel et Dieu s'occupera du surnaturel. 1 Timothée 2, 3 nous dit « Priez pour tous les hommes ». Un peu plus loin, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Romains 12 nous dit, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous compreniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et beaucoup d'entre nous, nous marchons dans les choses bonnes, mais nous ne marchons pas dans les choses agréables à Dieu, ni dans les choses parfaites. Vous pouvez marcher sans péché, vous pouvez marcher dans la sainteté, tout peut être très bien chez vous, ce sont des choses qui sont bonnes. Les choses agréables à Dieu, c'est la foi. Et plus que cela, c'est la foi qui se met en pratique. Quand vous avez la foi, vous faites les choses agréables à Dieu. Et quand vous commencez à les pratiquer, vous faites des choses parfaites, selon Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 100 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous connaissons tous ce verset. Mais malheureusement, ce verset ne transforme pas la plupart d'entre nous. Parce que la Bible dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils marchent selon leur propre convoitise. C'est-à-dire que nous pouvons faire 1000 réunions ensemble. Et Dieu se réjouira, Dieu sera béni. Mais une seule réunion où une seule âme est sauvée amènera plus de joie dans le ciel. Dieu s'intéresse plus aux perdus qu'à ses enfants. Bien sûr, Dieu aime ses enfants, Dieu veut les bénir, Dieu veut les chérir. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour les perdus. Et ça doit être ta motivation, ça doit être ta mentalité dans ce monde. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puisque Christ vit en moi, je devrais avoir la mentalité de Christ, les motivations de Christ, les pensées de Christ, les recherches de Christ. Jésus cherchait à délivrer les gens. Jésus cherchait à guérir les gens par tous les moyens. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien, partout autour de lui. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas écrit tout ce qu'il a fait, parce qu'à l'époque, le peu de livres qu'il y avait à l'époque n'aurait pas pu contenir toutes ses œuvres excellentes. Donc Jésus a fait bien plus de choses que ce que vous pouvez lire ici. Jésus a fait des choses extraordinaires partout où il passait. Matthieu 24, 12 nous dit pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la Bible nous dit que le péché va grandir. Et qu'à cause de cela, l'amour des chrétiens va s'affaiblir. C'est ce que Jésus disait dans Apocalypse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, alors que le péché grandit, l'amour des chrétiens devient faible? Parce qu'en fait, on réalise en lisant la parole de Dieu et en regardant autour de nous, c'est parce que les chrétiens deviennent comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors comment peuvent-ils avoir un cœur pour les perdus? Parce qu'ils leur ressemblent tellement. Ils se disent, mais pourquoi je prierai pour eux? Ils sont comme moi, ils font les mêmes choses que moi. Donc plus le péché augmente dans ce monde, et ici il est dit, plus l'amour de l'Église, du plus grand nombre, se refroidira. Parce que le monde va tellement emporter l'Église et les chrétiens, que les chrétiens n'arriveront plus. Ils chercheront à l'intérieur d'eux de l'amour pour les gens sans le trouver. Mais ceux qui cherchent réellement, Jésus dit, ils trouveront, il frappera, on les ouvrira. Si vous cherchez réellement un fardeau pour les perdus, si vous cherchez réellement à guérir les gens, sachez qu'il va se passer des choses glorieuses au travers de vous. Et je me souviens de cette parole que Dieu m'a dit, ce n'est pas une question de toi, c'est une question de moi. Ce n'est jamais question de moi, ce n'est jamais question de vous. Que pourrez-vous faire par vous-même? Par contre, nous avons une responsabilité, s'occuper des choses naturelles. Et Dieu s'occupera du surnaturel. Alors que vous allez de lieu en lieu, faisant le bien, Dieu mettra son approbation, sa faveur sur votre vie, et vous verrez des choses extraordinaires se passer dans vos mains. Et alors que je prêche la parole de Dieu, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous disiez, ça c'est pour moi, je veux vivre ces choses. Parce que l'écoute de la prédication de la foi sauvera les gens, délivrera les gens, transformera vos pensées, vos vies. La Bible dit qu'à un moment, l'apôtre était là en train de prêcher, et les gens avaient tellement soif, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient soif, ils s'emparaient du message. Et vous avez besoin de vous emparer de ce message. Vous avez besoin de vous emparer du message que Dieu vous donne. Dans Psaume, David, à un moment, s'est écrié, 106, verset 2, « Mais qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange ?» Il était là, et David, c'était cet homme qui voulait louer Dieu. Et là, il a cherché, et personne n'était là pour raconter les hauts faits de Dieu. Personne ne pouvait raconter, « Oh, il s'est passé quelque chose de nouveau dans ma vie. Oh, j'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri. » Il cherchait, il n'a trouvé personne. Et il a dit, mais qui publiera toute sa louange? La Bible dit, qu'est-ce qui glorifie Dieu? C'est que nous puissions porter du fruit. Plus que nos louanges, ce qui glorifie Dieu, c'est nos fruits. Tu peux amener quelqu'un à travailler dans ton entreprise, si ton entreprise c'est de ramasser des pommes, et qu'il vient à toi sans pommes à la fin de la journée, tu ne seras pas satisfait. Tu voudras qu'il arrive avec un carton plein de pommes. Et c'est ce que Dieu veut. Il pourra te dire, oh, les pommes étaient vraiment belles, oh, j'ai essayé de les porter, c'était quand même un petit peu lourd, il y en avait des rouges, il y en avait des jaunes, ah, c'est vrai, c'est vraiment bien chez toi. Il pourra vous faire tout plein de louanges sur vos pommes et sur vos pommiers, sur les feuilles et sur le beau temps qu'il fait dehors, ça ne va pas vous satisfaire. Ce qui va vous satisfaire, c'est qu'il puisse vous porter du fruit, vous amener du fruit. Et c'est la même chose avec Jésus. On peut le louer, on peut le remercier, on peut lui dire combien il est grand, combien il est beau, combien on l'aime. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est des fruits. Parce que quelqu'un qui loue Dieu sans porter du fruit est un hypocrite. Et Jésus disait aux pharisiens, hypocrite, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'était des gens qui avaient fait de la religion des choses pour s'enrichir, des choses pour être bénis. Nous avons parlé de la bénédiction. Oui, Dieu veut nous bénir. Mais cette bénédiction doit nous amener à bénir les autres. Parce que nous sommes bénis, nous bénissons les autres. Il y a des sources d'eau qui ne sont jamais abreuvées. Elles vivent pour elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Elles pourrissent. Vous n'irez jamais vous baigner dedans. Par contre, il y a d'autres sources qui reçoivent, qui sont abreuvées et qui elles-mêmes donnent. Celles-là subsistent à tout jamais. Dieu cherche un homme. Ézéchiel nous dit, 22, au verset 29. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens des psaumes? On va lire au verset 35, donc 106, psaume 106, 35, j'irai à Ézéchiel après. La Bible nous dit, ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Au lieu de dominer, ils furent dominés, ils furent opprimés, ils furent humiliés. Parce que, au bout d'un moment, ils se sont mis à pratiquer les mêmes œuvres que ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi personne n'était là pour louer Dieu, pour raconter de nouvelles choses sur Dieu. Parce qu'ils étaient rendus semblables à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui avaient été délivrés, la Bible dit, il était comme le cochon qui retourne, comme une truie qui retourne à son bourbier, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est ce que vous faites lorsque vous n'accomplissez pas les œuvres que Dieu avait d'avance écrites pour vous. Vous êtes en train de vous sécher, de vous dessécher complètement. Alors que Dieu vous a appelé à une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Ézéchiel 22, 29. Il est dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des vols, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger. Le peuple à l'époque, il foulait l'étranger. Ça veut dire qu'il ne faisait de l'étranger aucun cas. Il passait à côté des gens, il s'en fichait complètement. Il voyait des gens dans le besoin et le peuple s'en fichait. Il ne se préoccupait pas de l'étranger, de celui qui ne connaissait pas Dieu. Contre toute justice, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, mais je n'en trouve pas. Et c'est le cri de Dieu. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche en faveur du pays, en faveur de cette génération. Dieu est le Dieu des générations. Dieu sauve des générations. Dieu veut délivrer des générations. Mais Dieu cherche un homme, une femme qui va payer le prix de sa vie, qui va comprendre les réalités spirituelles. Un frère ici a fait un rêve il n'y a pas longtemps. Il a vu des âmes qui mouraient, des gens qui mouraient et leurs âmes sortir. Il a suivi ces âmes et ces âmes allaient dans des barques, une par une. Et il y avait de la place pour plusieurs personnes, mais elles allaient une par une et elles étaient en train de gémir, tristes et malheureuses, en direction de l'enfer. Et il y a bien des images comme ça que Dieu a données aux croyants pour qu'ils se réveillent. Parce que les croyants qui imitent le monde et qui marchent dans le monde sont des croyants charnels. Ils n'accomplissent rien. Ils vivent pour leur ventre, pour leurs besoins, pour leur maison, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur vide-grenier ou vide-garage, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Tout un tas de choses vaines. Et oui, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir, mais Jésus a dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ne savez-vous pas que vous êtes bénis en Jésus-Christ, que vous avez tout pleinement en lui? Vous avez été béni, vous avez été délivré, vous avez été guéri. Maintenant, il faut passer à autre chose. Est-ce que vous voulez que Jésus redescende à nouveau et se fasse crucifier comme s'il n'avait pas accompli son œuvre parfaite? Jésus a accompli une œuvre parfaite afin que vous puissiez et que je puisse être parfait. Afin que nous puissions ensemble être vraiment un reflet de sa gloire sur cette terre. Changement de cette génération. Transformation de cette génération. Dieu va chercher quelqu'un, un homme, une femme. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il cherche dans l'église un cœur. Un cœur qui va se laisser toucher. Un cœur qui va comprendre ses réalités. Oui, il y a des perdus partout autour de moi. Oui, le péché est partout. Les gens sont mal. Même les riches sont mal. Les pauvres sont mal. La Bible dit, il n'y a aucun qui fasse le juste, aucun qui fasse le bien. Pas un seul juste. Aucun qui fasse le bien. Jérémie 5, 1 dit, et c'est Dieu qui parle, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qu'est-ce que les choses justes ? Ce ne sont pas les choses que nous trouvons justes, ce sont les choses que Dieu nous a demandé d'accomplir. » Et Dieu dit, « Mais parcourez dans l'église, cherchez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur pour les âmes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie pour les gens perdus ? Oui, je prie pour les perdus. Oui, je prie pour ma famille. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Les prières sont des belles choses, mais les prières sans l'action, c'est mort. C'est ce que dit Jacques. Tu peux avoir foi que Dieu guérit, tu peux avoir foi que Dieu délivre, tu peux avoir foi que Dieu t'utilise, mais si tu n'as pas les œuvres de la foi, c'est mort, ça ne sert à rien, absolument rien. Tu peux avoir une très belle piscine dans ton garage, si tu ne vas jamais dedans ou si tu ne sais même pas où elle se trouve, elle ne sert à rien, absolument rien. 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. J'ai réalisé que Dieu use de patience non pas envers le monde, envers les croyants. Puisqu'ici, il est parlé à des croyants. Oui, Jésus va revenir d'une façon glorieuse et extrêmement glorieuse. Mais la Bible dit qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse dehors, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Ce n'est pas Dieu qui attend les pécheurs. Dieu attend l'Église. Dieu attend un homme, Dieu attend une femme, Dieu attend quelqu'un qui va dire « Je suis l'homme de la situation. Je serai la femme de la situation. » La Bible nous dit dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, les choses qui sont bonnes, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Oui, j'ai été sauvé, maintenant mets ton salut en action. » Au verset 15, « Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » C'est notre destinée, être des flambeaux dans ce monde. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il ne sert plus à rien si ce n'est à être foulé aux pieds des hommes. Quand tu as perdu ton feu, quand tu as perdu ton premier amour, tu peux parler de Jésus, les gens vont te fouler aux pieds. Par contre, lorsque tu es dans ce premier amour, lorsque tu recherches désespérément à aimer les gens comme Jésus les a aimés, à ce moment-là, tu vas être du sel dans la bouche des gens. Et tellement le sel sera dans leur bouche, ils voudront boire. Et là, ils appelleront Jésus, qui a les sources d'eau vive, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et vous allez boire gratuitement de l'eau de la vie. Et cette eau va couler en vous. La Bible dit, laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Beaucoup ont contristé, attristé le Saint-Esprit. En ne se préoccupant pas de ses objectifs, de ses motivations, le Saint-Esprit vient voir un enfant de Dieu. Et là, il essaie d'amener dans son cœur la révélation des perdus. Mais ce chrétien prie, « Oh Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi plus d'argent. Seigneur, je me sens pas bien. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. » Et Dieu dit, « Mais j'ai tout accompli. » La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 17, « Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. » Tous ces arbres, c'est nous. Ces arbres, c'est nous. Et nous sommes là pour abreuver les nations. pour rendre de l'eau à ceux qui ont soif et ceux qui crient chez eux, désespérés, se disant « Mais s'il y a un Dieu, pourquoi personne ne m'en parle ? S'il y a un Dieu, pourquoi je suis dans ces problèmes et dans ces galères ?» Parce que le chrétien à côté, il est en train de faire la fête, comme les fils de Job qui s'invitaient les uns et les autres et qui faisaient la fête tout le temps. Ils n'avaient pas compris du tout ces réalités spirituelles. Et beaucoup aujourd'hui, ils font la fête. « Oh, Dieu m'a béni, gloire à Dieu, je suis riche maintenant, je m'achète une belle voiture, une belle maison. Oh, et je ne vais même pas dans les quartiers pauvres. Qu'est-ce que je vais aller voir là-bas ? » Mais pauvre ou riche, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Tous sont séparés de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous ne savez pas comment annoncer l'évangile. Voilà, vous suppliez les gens, mais sois réconcilié avec Dieu. Dieu peut transformer ta vie d'une façon glorieuse. Dieu peut te changer d'une façon glorieuse en lui. 2 Pierre 1,3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous avons tout reçu pour vivre cette vie glorieuse, cette vie de prière, cette vie de recherche des âmes. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu veut vous faire participer à sa nature. Dieu veut mettre sa présence sur vous. Comme pasteur Michael l'avait prêché avec ses vases, mais ses vases qui se débattaient et qui laissaient couler l'onction. Notre caractère, parfois, empêche Dieu de mettre son onction sur nous. Nos objectifs, nos motivations, nos pensées se tournent toujours vers le mal ou toujours vers des choses qui sont vaines. Ou des choses qui sont normales, mais pas vers les perdus. Dieu ne peut pas remplir. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Dieu nous demande de faire des efforts. Dieu demande, faites tous vos efforts, tout ce que vous pouvez. Et en tant qu'enfant de Dieu qui entend un tel verset, on doit se dire, mais est-ce que je fais vraiment tous mes efforts ? Si la réponse est non, la porte, repentance. Et Jésus a dit, celui qui entrera par moi, il sortira à nouveau, il trouvera des pâturages, la vie en abondance. Faites tous vos efforts. Je regardais cette semaine une araignée par ma fenêtre, et elle avait fait toute une énorme toile d'araignée bien faite. Et là, elle attendait sagement et patiemment, jusqu'à ce qu'il y ait un petit moustique qui vienne. Et quand le moustique arrive, là, elle tire sur la toile, elle tire pour prendre l'insecte et elle le détruit et court sur lui et elle le mange. Même des insectes, ils font presque sa taille. Même les araignées sont parfois plus sages que les enfants de Dieu, c'est triste, non? L'araignée attend patiemment. Elle dit, celui qui va entrer dans ma toile, je ne vais pas le laisser partir. Je vais tirer mes filets. Je vais m'approcher et je vais la manger. Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles plus loin. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Si aujourd'hui je ne porte pas de fruits, il est dit ici, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Si je ne porte pas de fruits, c'est que la Bible dit ici, je suis aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne sait même plus d'où il vient, donc comment il peut avoir un cœur pour les autres? Il ne voit pas de très loin. En fait, il voit juste le bout de son nez, mes besoins, mon frigo à remplir, mes factures. Et il ne voit pas le voisin qui pleure à côté, qui gémit. Cette femme qui gémit, qui se fait battre à la maison et qui crie jour après jour et qui le matin se maquille et va au travail normalement et qui souffre à l'intérieur. Dieu cherche un homme différent de tous, avec une mentalité différente et des actions. La Bible dit de Moïse, psaume 106, 23, toujours dans ce passage, « Et il parla de tous les exterminés, alors que le peuple était dans des choses affreuses. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. La Bible dit « Mais Moïse, cet homme s'est levé dans sa génération et il a supplié Dieu que sa foudre ne tombe pas, mais que ses compassions qui se renouvellent chaque matin se renouvellent pour ce peuple qui marchait dans le désordre. » Il est dit de Phinéas un peu plus loin, verset 29. « Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, parce que Dieu les avait bénis, et eux, ils faisaient des choses catastrophiques. Et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. » Si Phinéas n'était pas intervenu, la plaie aurait continué à ravager le peuple. Mais la Bible dit de cet homme, « Phinéas s'est levé pour arrêter. » Il s'est dit, « C'est pas possible que ce peuple meure et souffre, et que cette plaie ravage les familles, ravage les enfants, ravage les gens. Moi, je vais me lever. Je ne vais pas être comme tous ces gens. Je me lève dans ma génération. » Cet homme n'était pas plein d'orgueil. Cet homme voyait juste un besoin, qui avait besoin d'être pourvu. Il a dit, « Moi, je vais donner ma vie pour les gens. Je me lève maintenant. Cette plaie va s'arrêter. » Et s'il avait pu dire au nom de Jésus, il l'aurait dit. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous pouvons parler au nom de Jésus et les montagnes sont détruites. Les gens sont guéris et délivrés par la puissance qui habite en nous. Nous avons lu tout à l'heure, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as tout reçu, ne va pas chercher ailleurs. Nous avons tout reçu, la puissance de Dieu en nous, ce qu'il nous manque. Nous avons peut-être la foi, mais c'est les œuvres de la foi. C'est commencer à prêcher l'évangile, avoir des gens être sauvés, puissamment glorifiés en Jésus-Christ. Quand un homme se lève, qu'il soit Phinéas, qu'il soit Moïse ou une autre personne, la faveur de Dieu est sur sa vie. Si quelqu'un persévère, même dans le mauvais jour, persévère dans ses motivations, la gloire de Dieu sera sur toute sa famille, sur toute sa ville et sur toute sa génération. Parce que Dieu bénit le juste et Dieu bénit le travail de nos mains, s'il y a un travail de nos mains. Néhémie. Chapitre 1, verset 2, il nous est dit « Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais. Et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Chapitre 2, verset 1. Il est dit, « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Cet homme a entendu les mêmes choses que Anani et ses frères. Mais cet homme a eu un cœur différent. Il était devant la même situation, devant le déshonneur que les gens, dont les gens étaient atteints. Mais par contre, dans son cœur, ça a vibré. Il a dit, c'est pas possible, il faut que ça change. Il faut que ces gens soient délivrés. Et il s'est levé dans sa génération. La Bible dit de David, Saül et tous les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. La Bible nous dit que le peuple de Dieu était là. Ils se sont rassemblés, comme nous le faisons. Ils ont campé devant ceux qui leur voulaient du mal. Et ils se sont même mis en ordre de bataille contre leur ennemi. Mais la Bible nous dit que pendant 40 jours, ils sont restés comme ça, sans rien faire. Ils avaient l'apparence de gens guerriers, de bons soldats. Ils s'étaient bien rassemblés, oui. Mais aucun n'avait bougé. Ils étaient dans la peur, apeurés, devant un géant. Le géant que les chrétiens doivent dominer, les géants que les chrétiens doivent terrasser, plus que de ne pas aimer les gens peut-être, c'est la peur. Parce que vous pouvez aimer les gens, mais la peur essaie de vous tirailler. Le géant dans ta vie qui doit être brisé par la parole de Dieu, c'est la peur. Tu dois briser la peur. Ils étaient séparés par une vallée, la Bible nous dit, et cette vallée, c'était la vallée de la peur. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Ils étaient bien rassemblés. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient le plan de Dieu. Ils s'étaient même mis en ordre de bataille Donc comme les chrétiens, ils sont rassemblés, ils connaissent la parole de Dieu, ils prient, ils se mettent en ordre de bataille, mais ils ne font rien d'autre, ils ne bougent pas, ils n'œuvrent pas. Pour beaucoup d'entre eux. Matthieu 24. Je ne vous ai pas menti, je vous avais dit que ce message, mon souhait et le souhait de Dieu, c'était d'amener à la repentance plusieurs parmi nous. Que celui qui a des oreilles entende. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Un peu plus loin, 25, 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Nous avons été puissamment bénis. Et j'ai l'habitude de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as glorifié. Ça veut dire que la gloire de Dieu est venue sur ma vie. Et la gloire de Dieu est venue sur votre vie, à votre nouvelle naissance. La Bible dit qu'il, je sais que si c'est devenu un gros mot, mais il tabernacle dans notre cœur. Ça veut dire qu'il prend toute la place. Le Saint-Esprit, tu es son temple. Le Saint-Esprit n'est pas ailleurs qu'en toi. La gloire de Dieu habite en toi. Et cette gloire n'habite pas pour ton bien-être. Oh, guili guili, je suis bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Non, elle est là pour que tu puisses porter du fruit. Que tu puisses parler aux gens. Que tu puisses écraser ta peur, que tu puisses dominer les montagnes d'incrédulité. Oh, ce peuple ne veut pas entendre parler de Dieu, ces gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Non, c'est toi qui ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Ces gens veulent entendre parler de Dieu, ces gens ils soupirent comme une biche assoiffée. Mais ils ne trouvent pas d'eau, la Bible nous dit. Jusqu'à ce qu'un homme se lève, un homme avec une mentalité différente. La Bible nous dit de Noé, que c'était le désordre partout sur la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Car Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La Bible dit des apôtres que Dieu marchait avec eux. Et comment on le savait? Par les miracles qu'ils accompagnaient. Il est dit de Jésus que Dieu était avec lui. Comment on l'a su? Par les miracles qui l'accompagnaient. Et parfois je prie, mais Seigneur, si réellement tu es avec moi, je veux voir des miracles dans ma vie. Je veux voir des guérisons, sinon, c'est qu'il y a un problème et ce problème ne vient pas de Dieu qui a tout accompli. Ce problème vient de ma compréhension, je dois renouveler mes pensées, je dois mourir encore plus, crucifier ma chair et vivre pour les perdus jusqu'à voir des gens être sauvés glorieusement. Et tous les ennemis de l'évangile fermeront leur bouche devant les miracles. Un homme de réveil a dit, en prêchant à une église qui était dans la fatigue, dans le désespoir, dans le sommeil, si chacun de vous, vous vous repentiez et vous cherchiez vraiment avec fermeté le salut des perdus, je ne donnerais pas 2 semaines avant qu'un réveil vienne dans votre ville. La Bible dit que les 120 étaient dans la chambre haute. Tous ils étaient là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais il n'y en a qu'un qui a ouvert la bouche. Pierre. Tous avaient été remplis du Saint-Esprit, mais un seul a prêché. Il s'appelait Pierre. Par contre, de ces 120, certains ont continué à prêcher l'Évangile, mais d'autres non. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jamais un réveil ne viendra sans effort personnel. Jamais le salut de quelqu'un ne viendra sans prière. Dieu vous amènera dans des temps incroyables dans sa présence. Si vous avez un cœur pour les perdus, si vous vous consacrez, si vous mettez du temps à part pour les perdus, Dieu vous amènera dans des temps incroyables. Quand vous êtes là le soir tranquillement chez vous, le matin ou peu importe, quand vous êtes consacré pour les perdus, parfois Dieu viendra vous visiter d'une agonie pour les perdus. Je me souviens un soir, nous prions pour le père d'Annabelle et la femme de son père. On priait pour eux. Mais c'est notre responsabilité. Mais par contre, la prière d'intercession, c'est lorsque le Saint-Esprit prend tes prières et les élève. Et je me souviens de ce soir-là, on a senti un combat spirituel, réel, de démons qui voulaient arracher la vie de ces gens. Qui voulait que ces gens ne connaissent pas Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur nous. On a prié avec ferveur. Le Saint-Esprit étant là pour nous assister. Parce que nous ne savons que dire, Seigneur, sauve-les. Mais le Saint-Esprit est ton assistant, ton ami, si seulement il l'est pour toi, pour t'assister. Peu de jours après, pas même 30 jours, il m'appelle. Le père d'Annabelle, en sortant de son travail, a levé les yeux vers le ciel, arrivé chez lui, il a vu une croix étincelante, entourée de diamants. Il a été convaincu de péché, il a donné sa vie à Jésus. Sa femme a été glorieusement touchée, elle m'a appelé. Il faut qu'on se marie, qu'on mette ça, notre vie en règle. Puissamment touchée. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Vous allez chez eux, ils n'ont peut-être pas de télévision, ils n'ont rien d'extraordinaire apparemment, mais ils ont un tel cœur pour Dieu. Ils savent d'où ils viennent. Ils aiment Jésus. Dieu cherche un homme de la même nature que nous, avec des faiblesses. Dieu ne cherche pas un super-héros. Dieu cherche juste un cœur. Il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi. Cet homme, pourquoi la Bible nous dit qu'il était de la même nature que nous? On le sait, non? Mais c'est pour me dire, mais réfléchissez. Il n'avait rien de plus que vous. Et pourtant, la prière de la foi a fait en sorte que le ciel s'est fermé. Et de la même manière, vous êtes de la même nature que lui, mais la prière de foi, la prière d'intercession pour les perdus va ouvrir le ciel dans votre génération. Il y a l'histoire d'un vieil homme. Il y a bien des histoires comme ça. Il était dans son magasin, il était directeur d'entreprise. Et un après-midi, le Saint-Esprit tombe sur lui et il a une soif désespérée de prier pour les perdus. Il ferme son magasin. Il rentre chez lui, il prie pour les perdus. Il demande à son pasteur, il faut inviter les gens à l'église ce dimanche, à accepter Jésus. Et dans ce temps-là, personne ne se convertissait. Le pasteur a dit, ok, nous allons faire. Un réveil a éclaté, d'une manière extraordinaire. Et tous ceux qui avaient été touchés ramenaient leur conviction de péché à cet après-midi où ce vieillard avait prié. Parce que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi d'un homme, de l'homme de la situation, délivrera les perdus. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Je suis béni lorsqu'un enfant de Dieu vient à moi et me dit « J'ai partagé l'évangile ». Qu'il ait eu un échec ou qu'il ait eu un succès, mon cœur est béni et celui de Dieu aussi. Il y a quelques jours, j'allais annoncer l'évangile ici sur la rue principale à Granby et j'ai comme vu des anges autour de moi qui étaient en train de se réjouir et de m'encourager. La Bible dit que Dieu nous a donné un ange. Et les anges autour de nous sont là pour travailler en faveur des saints. Ils prennent les paroles, ils prennent tes actes, ils prennent ce que tu fais et ils amènent la puissance de Dieu à se manifester. Et quand tu commences à annoncer l'évangile, oh, les anges se réjouissent. Ils commencent à appeler le ciel, le ciel, le ciel. Il y a bientôt quelqu'un qui va être sauvé, guéri et délivré. Et tout le monde de Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, si le monde de Dieu est pour toi, mais qui sera contre toi? Personne ne pourra t'empêcher d'annoncer l'évangile. Jésus a dit, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Si je ne porte pas de fruit dans ma vie, ma prière ne doit pas être, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Ma prière doit être, Seigneur, je te demande pardon, je veux changer, maintenant je vais aller et porter du fruit. Il nous a dit la parole que nous avons à prêcher. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Jérémie 29, 11. Dieu a des projets de paix et d'espérance afin de vous donner un avenir en lui. Dieu nous a jamais demandé de prouver qu'il existe. Dieu nous a jamais demandé de prouver sa parole de Dieu est vraie. Dieu nous a demandé de prêcher l'évangile. C'est notre responsabilité. La fausse religion ne répond pas aux besoins des gens. La Bible dit, examinez-vous vous-même. La Bible ne parle pas à des inconvertis. La Bible parle à l'Église. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Si réellement tu es dans la foi, il y a des œuvres qui s'accompagnent. Éprouvez-vous vous-même. La fausse religion, c'est comme manger de l'air. Oh, tu peux manger de l'air toute la journée, le soir tu auras faim. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils mangent de l'air. Et ils ont faim. C'est la fausse religion. Oui, tu es en train de mâcher, tu es en train d'ouvrir la bouche, tu es même en train peut-être d'avaler, mais tout ce que tu avales, c'est ta salive. Tu as l'apparence du bien, mais tu en as peut-être rejeté la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Je me souviens ce songe que Dieu m'a donné il y a quelques années qui a complètement transformé mon ministère et ma vie d'une manière générale. Je me suis vu sur une plateforme telle qu'ici et j'étais là entouré d'autres chrétiens et ces chrétiens avaient les yeux vers le ciel et ils disaient « Ah, c'est ça le ciel, c'est ça le ciel, c'est ça le ciel. » Et j'étais là et je regardais en fait, j'ai réalisé que mon corps devenait de plus en plus congelé et je ne pouvais plus bouger. Et j'ai dit « Mais c'est pas possible, c'est pas ça, non, c'est pas ça que Dieu a prévu pour moi. » Et à ce moment-là, je me suis vu et j'ai dit « Non, c'est pas possible, il faut pas que je reste ici. » La religion pourrie qui n'amène rien. Des gens qui regardent vers le ciel comme les disciples ont regardé Jésus s'en aller et les anges ont dû tapoter et leur dire « Mais que regardez-vous au ciel ? Jésus va revenir de la même façon. Maintenant, bougez et faites ce que Dieu vous a demandé de faire. » Dieu ne fera plus rien pour l'Église. Il a déjà tout accompli. C'est à l'Église de bouger dans sa génération et de comprendre que Dieu a mis la parole de réconciliation en nous. Il nous a transformés de gloire en gloire à son image. Il a mis la vie de Dieu dans notre esprit. Nous avons les paroles de la vie. Mais lorsque ces paroles restent dans ton cœur, elles moisissent, elles pourrissent. Comme une source qui n'est pas abreuvée, qui n'abreuve pas les autres. Nous avons en nous la parole de la vie, des paroles d'espoir. Dieu ne nous a jamais demandé de regarder la face des gens lorsque vous leur prêchez la parole de Dieu. Puisque sinon je me serais arrêté de prêcher depuis longtemps. Dieu a demandé de prêcher l'évangile. Prêcher, prêcher, prêcher. Ça doit être ta motivation, ta recherche de tous les jours. Et la Bible dit, cherchez le royaume, oui. Cherchez sa justice. Et toutes les autres choses, je vais m'en occuper. Ne vous occupez pas de toutes ces choses secondaires. Parce que moi-même, dit Dieu, je vais m'en occuper. La fausse église, c'est comme cette femme que j'ai vue à mes côtés, dans mon songe. Elle était là. Et croyait qu'elle était dans le ciel. Et croyait accomplir la volonté de Dieu. Et je me suis traîné. Je me suis traîné pour ne pas être congelé. Et là, j'ai regardé. Et j'ai vu plein de chrétiens qui étaient sur un tapis roulant comme dans des magasins quand vous allez à la caisse. Et là, ils étaient amenés en bas, dans un coin caché. Et ils étaient écrasés, comme mis dans des boîtes de conserve. Et au bout, il y avait le diable et un démon qui rigolaient. Et le diable rigole, « Oh, une église nouvelle va s'ouvrir dans ma ville. » Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va faire qu'ils vont rentrer dans le sommeil. Oh, ils vont faire que de prêcher sur des choses qui sont bien pour eux, ils vont pas s'occuper des autres. Oh tiens, ce chrétien, il veut quoi? Il veut de l'argent. Oh, je vais lui en donner plein, 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 plein. Et voilà ce chrétien qui oublie Dieu. Mais si Dieu trouve un homme, une femme, qui a un cœur pour les perdus, la bénédiction ne viendra pas du diable, fausse bénédiction. La bénédiction viendra du Seigneur lui-même. J'ai vu ces chrétiens qui croyaient être dans la volonté de Dieu, qui croyaient faire les œuvres de Dieu parce qu'ils allaient à l'église, parce qu'ils priaient, parce qu'ils lisaient la Bible, parce qu'ils faisaient tout un tas de choses religieuses. Oui, que Dieu nous demande que lorsqu'elles sont faites avec le cœur, mais qui n'apportent pas la vie autour de nous. Je pourrais et nous pourrions rester ici jusqu'à 100 ans sans que personne ne soit sauvé. Il va falloir que nous sortions tout à l'heure pour annoncer l'évangile aux gens. Il n'y a personne. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, je n'ai personne pour se soucier sincèrement, sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Il a dit, je n'ai personne. Il a cherché. Personne n'était là. De Timothée 4,16, il va dire à un moment, tous m'ont abandonné. Il n'y avait personne pour expliquer le rêve de Pharaon. Il n'y avait personne pour apporter la guérison à cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Il cherchait, mais personne n'était là. Il n'y avait personne lorsque cet homme est tombé dans le fossé. Les religieux sont passés, ils ne l'ont même pas regardé. Un jour, j'étais dans la rue, j'annonçais l'évangile à un clochard. Et il a dit, tu sais, ici, personne ne me voit. Je peux bouger mon bras comme ça devant la femme qui va passer, elle ne va même pas me voir. Il a levé son bras comme ça, la femme est passée, elle a fait comme ça, elle ne l'a pas vue. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, jour après jour, ils passent à côté de gens qui souffrent et qui désespèrent et qui soupirent peut-être après Dieu sans rien voir. C'est ce que Dieu a dit tout à l'heure, ils ne voient pas de loin. Ils cherchent tous leur intérêt. Dieu dit dans Exode, ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les chrétiens passent plus de temps dans les magasins à chercher des choses dont ils n'ont pas besoin que de temps à annoncer l'Évangile. Comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment vont-ils croire si personne ne leur a parlé? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'homme de la situation est celui qui ne laisse pas mourir ses talents, mais qui va les utiliser quels que soient ses talents. Nous avons tous des personnalités différentes, nous allons tous toucher des gens différents. Mais nous avons besoin d'avoir un cœur pour ces perdus. Jacques nous dit, au chapitre 2, au verset 14, « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi? Si l'on n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ?» Il y a quelques jours encore, j'ai été annoncer l'Évangile. Il y avait une fille et un garçon, des jeunes, ils avaient 19 ans. Et j'ai essayé de leur parler de Jésus, l'homme ne voulait rien savoir. Il avait l'hépatite C, il m'a dit, tu sais moi, si Dieu était bon, il ne m'aurait pas laissé faire ce que j'ai fait et pas aller en prison et choper l'hépatite C. Je suis revenu une deuxième fois et là j'étais là et j'avais prié, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Et j'ai vu en face de moi, il y avait un Subway. J'ai dit, vous avez faim? Elles ont dit, oui, on a faim. Ils faisaient la manche, ils cherchaient de l'argent. Je dis, je vais leur payer à manger. La Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Le garçon a gardé le ticket de caisse, il a dit, je vais garder ça en souvenir de ce que quelqu'un a su payer pour moi. Imaginez, 20 dollars. Mais beaucoup parmi nous ont préféré donner 20 dollars que d'annoncer l'Évangile. Mais je vous le dis, vous allez faire les deux. Cet homme était content pour 20 dollars, imaginez. Mais cette vie est plus que de l'argent. Cette vie est plus que de m'occuper de mes petites fleurs dans mon jardin. Oui, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, un jardin glorieux, pour qu'il puisse se reposer, être béni, mais qu'il puisse aussi dominer et régner. L'équilibre de la foi dont nous avons besoin. Beaucoup trouvent des excuses. Est-ce que si on voit un enfant qui est en train de se noyer sous nos yeux, est-ce qu'on va dire, ah, tu sais, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du médecin ou de je ne sais pas quel sauveteur, je vais rester ici et regarder l'enfant sous mes yeux être noyé et mourir. Personne d'entre nous ferait ça. Mais pourtant, nous laissons les gens mourir les jours, un jour après l'autre, devant nos yeux, l'un après l'autre, sans rien faire. Pourquoi? Ils ne voient pas de très loin. Personne d'entre nous. Beaucoup regardent la météo tous les jours. Mais il faudrait regarder la météo du ciel. Les anges parfois font la météo. Ils disent aujourd'hui, 65 000 démons travaillent dans la ville. Aujourd'hui, 200 000 anges se reposent car zéro chrétien travaille. Les anges disent, aujourd'hui nous prévoyons à peu près 347 personnes qui vont aller en enfer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église est endormie, elle prie, mais n'agit pas. Voilà la météo du ciel, et c'est désastreux. Et Dieu soupire et il dit, mais j'ai tout fait, j'ai envoyé Jésus, je l'ai rempli du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche quelqu'un. Et tu peux être cette personne. Tu peux te lever et dire au nom de Jésus, j'en ai marre de vivre pour moi-même, de vivre pour tous mes besoins. Non, je ne chercherai pas mon intérêt, je vais chercher l'intérêt des autres. Je vais être semblable à Jésus, un vrai disciple, et semer ma vie pour les gens qui m'entourent. Tu peux être cet homme, tu peux être cette femme, parce qu'il a mis toute sa puissance de piété et de vie en toi. Mais ça va te demander de sacrifier des choses, de te consacrer, d'enlever des choses dans ta vie, de persévérer. Et de la foi, de l'amour. Si toutes ces choses sont en toi, la Bible dit, il ne te laissera pas oisif, sans fruit. Imaginez une belle famille. La maman attendait un bébé depuis bien longtemps. Le papa avait travaillé très durement pour construire sa maison. Et là, le soir, ils se reposent. Ils sont bénis dans la chambre de bébé qui est toute neuve. Et tout d'un coup, toi, tu es le voisin. Et ton père est parti en voyage et il t'a dit, tu vas garder cette maison. Et le père, grâce à Internet et tout ça, aujourd'hui, il voit sa maison. Et là, il voit, parce qu'il est à l'étranger, et lui, il ne dort pas. il regarde et il voit qu'un incendie est en train de ravager tout l'entourage. Et il te dit, il t'appelle, il te dit, « Hey, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te réveilles, le feu va bientôt atteindre la maison des voisins. » Et là, tu dis, « Oh, je suis fatigué. Oh, je ne sais pas comment faire. Ah oui, mais c'est le travail des pompiers, des secouristes. Ah oui, mais normalement, tu m'interdis de traverser la route. Ah oui, mais j'ai peur du noir, je vais rester ici. » C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ne prions pas, lorsque nous ne parlons pas aux perdus. Dieu nous dit, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu ailles annoncer l'évangile. Ils vont mourir d'un instant à l'autre. Tu ne sais pas ni le jour ni le leur. Mais ils vont mourir, sache-le, si tu ne fais rien. Ils vont mourir et malheureusement, toi aussi, tu seras ravagé par l'incendie. Tu chercheras le secours, tu n'en trouveras pas. Parce que tu seras sur le chemin des perdus. Quasiment comme eux, sans aucune récompense. Les gens trouvent tout un tas de raisons pour ne pas annoncer l'évangile. Ah, ce n'est pas la bonne méthode. L'évangélisation, l'annonce de l'évangile n'est pas une méthode. C'est un cœur qui a été profondément touché par Dieu pour les perdus. Dieu nous a donné ici une stratégie des groupes vie. Et vous devez faire partie d'un groupe vie. Vous devez vous dire, dans ce groupe vie n'est pas juste pour moi, moi, moi et moi, mais non, ce groupe vie est là pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais m'investir, je vais donner ma vie, et même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, même s'il y a ceci, cela, ou que ce soit moi, j'aimerais que ce soit moi le leader de ce groupe vie, parce que je ferai les choses mieux que tout le monde. Non, tu te dis non. Mon but, c'est le salut des âmes. Et tu te donnes jusqu'à voir une âme sauvée. Et ensemble, dans un même groupe vie, parfois vous priez, Seigneur, on veut voir le salut, on veut être rempli de ce fardeau. Et je vous garantis, le lendemain, le surlendemain ou la semaine d'après, vous sortez tous ensemble, vous annoncez l'évangile. Vous allez voir combien ils sont beaux, vos pieds. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous serez rassasiés. Quels sont les sentiments que nous devrions éprouver face au pays qui se perd? La Bible dit de David, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » Jérémie dit, « Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. » Le cœur me serre, je ne puis me taire. On annonce ruine sur ruine. Néhémie dit, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ézéchiel dit, là je restais 7 jours parmi les exilés, accablés au milieu d'eux. La Bible dit de Jésus, Jésus voyant la foule fut ému de compassion. Voilà les sentiments qui devraient être les nôtres. Il parcourait toutes les villes et tous les villages. La Bible dit le Lot, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait son âme de juste jour après jour à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Cet homme s'est dit, non, c'est pas possible qu'il y a des gens qui meurent autour de moi sans entendre parler de Jésus, il faut que je fasse quelque chose. Il tourmentait son âme de juste. Les fils de Corée ont dit dans les psaumes, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Qui va montrer Dieu dans cette génération? C'est vous, c'est moi. Nous allons montrer Dieu dans cette génération. Comment on peut se réjouir d'avoir une église de 1000 personnes lorsque 65 000 autres personnes dans notre ville sont perdues? La Bible dit que le bon berger, il a 99, il va aller chercher celle qui est perdue. Personne d'entre vous ne laisserait dans la nuit fuir ses toilettes. Si les toilettes coulaient et fuyaient, tous on pourrait être fatigués, vous pourriez même être pas bien du tout, mais vous allez vous lever. Et par contre, nous ne nous levons pas pour le salut des âmes. Vous savez qu'un homme se lave les dents environ 3 heures par mois, mais un chrétien froid annonce à peine 10 minutes l'évangile par mois. 3 heures à se laver les dents, 0 minute à annoncer l'évangile. Les gens passent environ 115 heures par mois à regarder la télévision sans parler d'internet. Mais beaucoup de chrétiens qui passent ces 115 heures par mois devant la télévision, cette idole merveilleuse qu'ils ont acquérie, qu'ils ont acquis, pour laquelle ils ont économisé, 115 heures par mois, 0 minute pour les perdus. Si c'est mon cas, si c'est ton cas, on doit se dire, il faut que ça change. J'ai des mauvaises priorités. Proverbe dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre ne criera lui-même et n'aura pas de réponse. Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Quand Dieu accomplit la volonté de Dieu, ça peut être difficile pour la chair, oui, ça l'est. Mais Paul dira, de toutes ces persécutions, Dieu m'en a délivré de toutes. Il y aura des persécutions, mais là tu vas te cacher plus proche de Jésus. Et Jésus, tu vas tellement l'aimer, il va tellement t'aimer, il va te délivrer. On disait, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? N'est-ce pas le fils de Joseph ? On a dit, il n'avait rien pour attirer le regard. On a dit à David, tu ne peux pas te battre contre ce géant, il est plus fort que toi. On a dit à Néhémie, alors qu'il commençait à se dire, non, il faut que je fasse quelque chose. Non, toi, tu es rebelle contre le roi. On dira tout un tas de choses sur vous. Des pensées qui tourneront autour de vous, des gens qui vous parleront même dans l'église, qui vous diront, tu ne peux pas faire ça. Non, regarde, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas. Regarde comment tu es, regarde comment tu as vécu, regarde l'argent que tu as dans tes poches, tu ne peux pas. Et tu te relèves, tu te lèves contre ça, tu dis, non, je puis tout par Christ qui me fortifie. Sa droite triomphante est avec moi, dans ma vie, pour toucher ce monde. Quelle est la conséquence du cœur pour les âmes? Bien sûr, tous ceux qui ont faim de Dieu seront puissamment rassasiés. Si vous avez soif d'être utilisé par Dieu, et plus que cela, en fait, Dieu ne nous utilise pas, Dieu utilise sa puissance en nous. Ça nous réconforte. Seigneur, je sais, ce ne sera pas avec mes forces, avec tes forces. Tous ceux qui ont ce cœur aujourd'hui, Dieu va puissamment vous utiliser si vous marchez dans la persévérance et dans la foi. Comment être revêtu de l'esprit de prière? Comment être revêtu de cet esprit de vie? Comment amener dans nos groupes vie la vie de Dieu? Comment on peut voir dans les groupes vie des gens être sauvés? 3 choses. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre cœur, un changement radical. Nous avons parlé de la repentance, Seigneur, c'est clair. Je veux s'occuper de tout un tas de choses, je le réalise. Et Seigneur, je sais que tu es un bon Père. Tu prends soin de moi et tu me pardonnes. Car Jésus se trouve à ta droite pour me pardonner de toute iniquité. En raison de l'iniquité, mon amour, oui, c'est amenuisé, c'est réduit pour les autres. Mais aujourd'hui, je change. Donc, repentance. 2e chose, c'est fixer nos pensées sur Dieu. Et discipliner nos pensées. Vous allez devoir discipliner vos pensées. Comment quelqu'un peut être revêtu d'un esprit de prière? C'est comme un chef d'entreprise qui est dans les dettes et dans les problèmes et dans les tracas quotidiens. Il y pense, il y médite. Tout le temps. Ça le suit dans sa douche, ça le suit dans la voiture, ça le suit dans son lit, ça le suit partout. Vous devez faire pareil avec les âmes. Vous devez penser aux âmes, lire des livres sur l'annonce de l'évangile. Vous devez prier pour les âmes, chercher. Et Dieu dit, celui qui cherche, il trouve. Et plus vous allez discipliner vos pensées, votre mentalité, et de nos mentalités, va sortir des paroles qui vont sortir des actions. Et on a appelé des habitudes. Votre mentalité va être changée, comme Dieu a dit, renouvelez votre intelligence, vos mentalités, afin que vous connaissiez, que vous parliez la volonté de Dieu. Et alors, ce jour-là, Jésus dit, ils iront de lieu en lieu, portant beaucoup de fruits. Certains disent, ce n'est pas mon appel. À tous, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous avez tous reçu ce ministère glorieux de la réconciliation. Et vous savez, même si la parole est là parfois pour nous convaincre, pour nous reprendre, le Dieu d'amour est toujours le même. Dieu nous aime d'un amour éternel. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser pourrir dans nos situations. Qu'est-ce qui apporte la vie? Qu'est-ce qui apporte la joie dans le ciel? Le salut des gens. Vous avez tous entendu cette parole. Et tous, vous pouvez dire, oui, je vais faire vraiment ce que j'ai entendu, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. Et on va voir dans quelques temps un vrai changement dans votre vie. Vous avez le choix juste de trouver ça super, trouver ça vraiment bien, c'est vrai. Peut-être méditer un peu ce soir, prier par rapport à ça, et complètement l'oublier lundi. Mais Dieu cherche un homme. Vous pouvez être l'homme, la femme de la situation. Un dernier mot, Lorsque vous allez annoncer l'évangile, il va y avoir des échecs. Mais ce n'est pas un problème. C'est comme quand un enfant commence à vouloir marcher, il peut tomber, son père ne va pas l'écraser, son père ne va pas être fâché contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le reprendre et réessayer à nouveau. C'est ce que Dieu va faire au travers de tous ceux qui se lèvent pour annoncer l'évangile. Il va se lever dans votre vie et il va dire, même s'il se trompe, même s'il commet des erreurs, même s'il fait certaines choses et il se trompe parfois, il va se relever. Parce que la Bible dit que le juste tombe, même cette fois, et Dieu l'en délivre toujours. Il y a quelques semaines, je me suis acheté un piano. Parce que j'aime beaucoup la louange, mais parfois ça ne fait pas le son que je veux. Alors je me suis acheté un piano, j'ai été sur les petites annonces. Et là, j'ai acheté un piano à une chrétienne, en fait, qui n'arrivait pas à chanter en jouant. Et quand vous allez annoncer l'évangile, vous avez besoin d'écraser la honte. Si aujourd'hui je fais une mauvaise note, plus fort, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit que Jésus a méprisé la honte. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous allez devoir mépriser la honte. Ce qu'on pense de vous, mais peu importe. Que vous soyez habillé en chemise, en costume, ou en pantalon, ou en t-shirt, ou en Marcel, sans manches, peu importe. Si vous vous trompez, mais qu'est-ce que ça va faire? Vous rentrez chez vous, vous dites, Seigneur, je me suis trompé. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi cette personne n'a pas été touchée? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Et vous priez. Et vous priez. Et même si vous faites des erreurs, même si vous faites des fausses notes, la gloire de Dieu sera sur vous. La gloire de Dieu va venir sur vous parce que Dieu vous aime d'un amour éternel. On va fixer nos yeux sur Dieu et chacun d'entre nous, pendant les quelques minutes qui restent, on va s'examiner nous-mêmes et on va dire, Seigneur, je veux changer. On va fermer nos yeux et on va fixer nos yeux sur notre vie. Examinez-vous. Et regardez si vous ne pouvez pas changer. S'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire. Et si vous êtes réellement vrai avec vous-même, si vous êtes quelqu'un qui, c'est vrai, n'avait pas un cœur pour les perdus, vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux vraiment changer. Je veux réellement changer. Je veux porter du fruit pour ton royaume. Je veux voir réellement ta gloire dans ma génération. Et là où vous êtes, prenez la décision. Prenez la décision d'être l'homme, la femme de la situation. Seconde qui passe, il y a des malheureux autour de vous qui cherchent de l'eau, qui cherchent à boire. Mais si personne ne se lève, si personne ne fait rien, ils mourront dans leur péché et vous, vous mourrez dans votre bénédiction. Mais Dieu veut faire un changement. Il veut transformer la vie des gens autour de vous. Mais cela ne se fera pas sans vous. Cela se fera avec un cœur qui cherche les perdus. Jésus, viens, viens. Je veux être Seigneur, l'homme de la situation. Non, je ne laisserai pas mourir les gens autour de moi, étant béni. Mourir, à pas que
fiche de Dieu, afin qu'il puisse voir la gloire de Dieu au travers de ma vie, qu'il puisse être changé à tout jamais. Et même si je me trompe parfois, Seigneur, ta houlette et ton bâton sont mon réconfort, mon Dieu. Tu es assis à ma droite, prêt à bénir ma vie d'une façon glorieuse. Tu veux transformer la vie des gens autour de moi. Précieux Jésus. Car tu es bon, Jésus. Partout qui meurent, il faut changer, il faut transformer nos mentalités et aller de lieu en lieu, faire le bien autour de nous. Il a mis en toi la vie et le ministère de la réconciliation pour que les gens soient sauvés. Et vous savez, peu importe si je fais des mauvaises notes, peu importe si je me trompe parfois, la gloire de Dieu est dans ma vie et les gens seront bénis, sauvés, délivrés parce que j'ai méprisé la honte. Oh, j'ai rejeté mon ancienne vie pour que Christ vive en moi. Oh, pour que les gens soient sauvés glorieusement, car il est mon Dieu, il est ma vie, il est tout ce que j'ai. C'est mon Jésus. Si c'est toi, là où tu es, si tu prends la décision de vivre pour lui, lève-toi là où tu es. Si tu prends la décision réellement, alors que tu es dans les magasins, de penser aux gens perdus, de regarder les gens différemment, si tu regardes les gens avec le cœur de Dieu, si tu dis, Seigneur, c'est vrai, je n'avais pas tes priorités, mais je veux changer. Seigneur, je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi parce que ma maison n'est pas une maison de prière. Ma maison n'est pas une maison de salut. Mais j'ai vécu pour moi-même. Seigneur, je veux changer. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il te pardonne. Et il te donne ce ministère de la réconciliation. Si tu dis, je veux sauver les gens autour de moi, avec mes faiblesses, mais avec la force de Dieu. Dieu fera comme avec David. Tu jetteras ta pierre et il ajoutera à cette pierre sa puissance de gloire. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie et tu fermeras la bouche du diable qui te dit, regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais, tu vas rester comme ça toute ta vie sans jamais porter de fruits. Car c'est un mensonge diabolique. Et tu vas porter beaucoup de fruits, je te l'assure. Beaucoup, beaucoup de fruits. Car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi pour entendre la vie, des paroles d'espoir. Des paroles d'espoir. Église, réclame les perdus. Réclamez les perdus. Réclamez les gens de votre famille. Appelez-les par leur nom. Seigneur, sauve ma famille. Je t'en prie. Je ne veux pas passer l'éternité sans eux. Sauve-les, je t'en prie. Sauve-les, je t'en prie. Sauve-les, je t'en prie. Puissance de le faire. Oui, sauve, Jésus. Oui, Seigneur. Sauve. Seigneur, fais de l'Église vécue une maison de salut et de délivrance.
Seigneur, sauve, viens sauver cette génération, mon Dieu. Viens, Seigneur, viens sauver, viens délivrer ma génération. Seigneur, tu viens m'assister dans tous mes besoins et tu viens sauver cette génération. Seigneur, viens. Regardez tous les gens qui sont perdus à côté de vous et regardez leur détresse jour après jour. Ils se consument de l'intérieur, ils cherchent de l'eau, mais qui leur donnera si ce n'est toi? Tu es l'homme de la situation. Rejette le doute, rejette la peur, rejette la honte et tu iras et tes pieds seront beaux. Les anges se réjouiront dans ta maison. Car cette génération a besoin d'être sauvée. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu au travers de ta vie, de ma vie. Et ils vont la voir. Tous ceux qui se lèvent pour lui seront bénis. Tous ceux qui prennent la décision de vivre pour Jésus seront glorifiés en lui, ils porteront beaucoup de fruits. Si tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, je rejette la honte, je rejette les échecs, je rejette ma vie pour te servir, pour servir les autres, pour faire le bien autour de moi, la gloire de Dieu va t'accompagner, je te le promets, au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas un menteur, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Qu'il a promis, il va l'accomplir car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, il bénit ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où Dieu vient visiter son peuple. Ne dis pas, ce sera pour demain, comme ce peuple qui disait, cette vision, c'est pour des jours plus tard. Non, dis, et c'est Dieu qui dit, cette vision est pour aujourd'hui. Je vais mettre sur toi un fardeau puissant. Et toi, ta maison, même si tu es seul, en couple ou en famille, vous allez voir ma gloire dans votre génération. Car Dieu dit sur ta vie les projets de paix et d'avenir afin de te donner beaucoup de fruits. Refuse de rester comme ça, dans cette condition. S'il y a ici une personne qui n'a jamais accepté Jésus, tu peux là où tu es, juste lever ta main. Si tu me regardes aujourd'hui, au travers d'Internet, là où tu es, lève ta main. Et tu vas dire cette prière de tout ton cœur. Ce n'est pas une recette magique, mais la Bible dit que si tu confesses de ta bouche et si tu dis de tout ton cœur que Jésus est ton Seigneur et ta vie, tu seras sauvé. S'il y a ici une personne qui a besoin de Jésus, dis-lui, Jésus, viens dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je veux que tu sois celui qui me sauve, oui, mais celui qui dirige ma vie. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Je rejette ma vie, tout ce que j'ai derrière moi, et je te donne ma vie complètement. Et la Bible dit que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, oh, un enfant béni, ta vie va changer. Il va s'occuper de tout dans ta vie. comme un père qui cherche son enfant perdu. Il te cherche désespérément. Il te cherchait et il vient de te trouver. Aujourd'hui, le réveil commence dans cette église au nom de Jésus. Aujourd'hui, des gens qui étaient là tout seuls, vivant pour eux-mêmes, commencent à prier, à chercher Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, cette église va de l'avant et un grand nombre de gens sont sauvés. Des couples qui ne priaient plus recommencent à prier ensemble pour le salut de leur génération. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Un jour de réveil. Un jour où Dieu va te visiter. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit. Il est derrière toi et il va s'occuper de toi. Il va te bénir et bénir ta vie. Nous sommes bénis de toute bénédiction.
Je voulais rajouter quelque chose de notre frère, pasteur Jérémy. Vous savez, je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, il y a eu un temps avant notre départ, on avait été invité par le prédicateur à faire une coupe avec nos mains. Puis c'était un moment où on a juste dit, Seigneur, prends ma vie et fais de ma vie quelque chose. Et vous savez, on peut prêcher sur l'autorité du croyant, comme on a fait pour connaître qui nous sommes en Christ, on peut connaître les promesses de Dieu. Et comme j'ai prêché la semaine passée, j'ai prêché sur justement le départ de notre premier amour. Et puis aujourd'hui, comme pasteur Jérémy a prêché, c'est ça, hein? C'est notre premier amour, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur pour qu'il puisse avoir par la suite des gestes. Et comme nous avons dit cet été, c'est l'été où nous allons grandir. Est-ce que vous vous rappelez de ça? N'est-ce pas? C'est l'été, là, on va grandir ici, pas juste spirituellement, mais numériquement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un miracle qui doit se produire en nous. Et souvent, on entend parler du réveil. On dit, faites un cercle et entrez dans ce cercle-là et dites, le réveil commence ici. C'est justement ça, c'est justement d'avoir le réveil en nous, disant, Seigneur, change-moi pour que vraiment je sois un témoin fidèle, un témoin. Et je veux vous donner l'encouragement aujourd'hui. Si vous dites, mais moi, je ne sais pas comment faire, j'aimerais ça, mais je me demande comment faire. Et pasteur Jérémy a parlé pendant quelques instants des groupes vie. Ce qu'on veut faire, on ne vous envoie pas tout seul, à tout faire tout seul. Et certainement, quand vous êtes tout seul et Dieu vous donne une opportunité, il faut la saisir. Mais je veux vous donner l'encouragement que vous n'êtes pas tout seul dans l'Église. Étant dans un groupe vie, on fait des projets d'église ensemble, des groupes de 10, 12, et comme on s'investit ensemble, on fait des choses. Et qu'est-ce qui est merveilleux? On a déjà vu la main de Dieu dans les groupes vie, justement où le Seigneur est allé chercher une famille au complet par les groupes vie. Comme ça, comme on marche dans l'amour, comme on est un témoin, puis comme on est là ensemble, la puissance de Dieu est sur nous. Et si vous dites, moi je rêverais de vivre des miracles, mais comme on est justement les ambassadeurs de Christ, les miracles nous accompagnent, mais il faut prendre le pas par la foi. Et aujourd'hui, pasteur Jérémy nous a apporté ce message pour vraiment devenir passionné pour Jésus-Christ. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous dites, oui, moi justement, moi je veux être cette personne qui va prêcher l'Évangile. Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça, parce que je sais que le Seigneur va faire des changements. Et Dieu, cette année, va rajouter, cet été, l'Église. On va voir les personnes se rajouter. Le croyez-vous ce matin? Amen. Moi, j'ai vraiment la foi. Ici, là, on a de la place encore. Et le Seigneur va remplir. Et savez-vous, Dieu, comme le pasteur Jérémie a dit, c'est pas, on devrait pas attendre après Dieu. Ah, ben Dieu va sauver les gens. Mais c'est justement, c'est nous. Nous allons vers les gens. Dieu est en nous, parle à travers nous. Et vous savez, même comme vous allez évangéliser, là, moi, je veux vous encourager, relâchez votre foi d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut parler. Et là, on se dit, mais pourquoi tout d'un coup, je me mets à parler d'une telle chose? Et là, vous allez voir, le Seigneur va vous inspirer avec les dons du Saint-Esprit. Vous allez commencer à parler. Et là, les gens qui vont vous recevoir, ils vont vous entendre, ils vont dire, mais comment ça vous dites ça? Mais pourquoi vous me racontez cette chose? Comment pouviez-vous connaître qu'est-ce que je vis? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, là, il connaît toutes choses, il connaît les gens. C'est que si on est une église où on se tourne pas juste vers nous, et on n'est pas juste là pour dire, mais moi, je veux être béni, moi, j'ai mes besoins, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma vie. Mais si on dit, Ma vie, là, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ et c'est pour les autres autour de moi. Vous allez voir, là, on va tellement être bénis personnellement parce que quand on passe à l'action pour le Seigneur s'occupe de toutes nos autres choses. Amen. Mais vous savez qu'est-ce que ça prend aussi? C'est la maturité. C'est la maturité de dire, je me préoccupe pas juste de mon moi, de mon je, mais je me préoccupe des gens perdus autour de moi. N'est-ce pas merveilleux qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas un chrétien depuis longue date, peut-être vous avez une semaine, deux mois, je ne sais pas. Mais vous pouvez dire, moi là, je veux déjà donner ma vie au Seigneur d'une façon vraiment tangible où je vais passer à l'action. Et vous savez, Dieu va se servir de vous même dans votre état de bébé spirituel, de nouveau-né. Moi, je crois ça. Et souvent, quand on est nouveau-né, justement, on est passionné. Mais là, vu que vous allez être entouré, vous allez être encadré pour aller avec sagesse. Ce qui est encore plus merveilleux. Donc, le Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Et ce matin, je vais inviter l'équipe de la louange à venir. On va chanter un chant de louange à la fin. Et même, j'aimerais ça vous inviter à vous lever maintenant. Et j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Qu'on prie ensemble. Comme pasteur Jérémie a dit, on met de côté toutes les choses, l'orgueil, on marche sur notre orgueil. Si on fait des fausses notes, même si on dit des choses des fois qui sont pas parfaites, vous savez qu'est-ce qui est merveilleux? Le Seigneur est capable de prendre ces choses-là. Et des fois, on dit, je me suis trompé, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Mais des fois, juste une parole de Dieu peut transformer une vie à tout jamais. Juste une parole de Dieu change une vie. Vous savez, moi, là, quand j'étais en Alberta, j'avais un clip d'une minute à télévision. Puis il y a des gens qui me disaient une parole comme ça que j'ai entendue pendant 53 secondes. C'est juste 53 secondes des clips que je faisais. Puis là, ça a changé ma vie. J'ai été sauvé à cause d'un clip comme ça. Des fois, juste une parole que vous allez dire à une serveuse, le Seigneur va utiliser ça pour travailler dans le cœur. Amen. J'ai invité l'équipe, on peut juste commencer à jouer. J'aimerais ça vous inviter à lever vos mains. On va lever nos mains comme geste d'abandon ce matin. Ô Seigneur Dieu, parce que Jérémie nous a appelés à se repentir. Et Seigneur, on veut se repentir, Seigneur, d'avoir été des chrétiens parfois égoïstes, où on pensait juste à nos besoins. Seigneur, on veut avoir les yeux ouverts pour voir les perdus autour de nous. Seigneur, nous ne voulons pas être une église confortable où on est juste assis dans notre fauteuil spirituel à rien faire. Mais Seigneur, nous voulons avoir les yeux ouverts pour voir les gens qui se perdent à droite et à gauche. Merci Seigneur Dieu pour la passion qui vient de ton Saint-Esprit aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu parce que tu viens faire de nous des flammes de feu. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui quittent cette place aujourd'hui, sachant que nous sommes en toi, nous avons ton onction sur nos vies et nous passons à l'action par la foi. Nous prenons ce message et nous disons oui Seigneur, nous serons des témoins véritables de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui on s'abandonne à toi et on dit oui Seigneur, nous sommes là enrôlés dans ton armée. Nous allons proclamer ta parole, nous allons prêcher ta parole. Et nous nous attendons avant le mois de septembre que cette église va avoir doublé à cause des âmes qui vont être sauvées. Merci Seigneur Dieu pour les âmes qui arrivent. Merci Seigneur Dieu que je vais m'investir dans la vie de ces nouveaux-nés. Oh merci Seigneur Dieu parce que tu m'aides à grandir rapidement. Parce que la moisson est grande Seigneur Dieu. Il y a tellement d'âmes perdues autour de moi. Et dans ma ville à Granby, je vais m'investir localement pour voir une différence, pour voir des âmes sauvées dans cette ville au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que je ne suis pas un auditeur oublieux, mais Seigneur, que ce message soit gravé sur mon cœur, que je puisse toujours avoir cette passion pour les âmes perdues. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Et le peuple de Dieu peut dire Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.